Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Herner, donc notre invité en duplex direct de Londres, Agnès Alexandre Collier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne, vous êtes en duplex grâce à l'aide de nos camarades de France Info. Donc évidemment c'est un événement tout à fait considérable s'il se confirme ce Brexit. Cela revêt une dimension non seulement britannique et communautaire mais aussi internationale. C'est toute l'assise, le portage et sans doute la finalité de l'Europe qui en est non pas modifiée mais changée. On va tout de suite partir des résultats. Alors on s'achemine apparemment, vous allez nous le confirmer, vers un 52-48 en faveur du retrait.
Oui, tout à fait. C'est ce qui c'est ce qui semble se dessiner et c'est ce qui indique une inversion totale par rapport aux estimations qu'on a eues il y a quelques heures, au moment où on s'est couché ici à Londres, où un sondage en fait, qui n'était pas un sondage sorti des urnes, mais indiquait exactement l'inverse. Et donc là, on attend encore le décompte des voix n'est pas totalement terminé puisqu'on attend encore quelques
circonscriptions.
Quelques circonscriptions, autour de Londres notamment, mais globalement, ça va pas modifier ce pourcentage.
Alors, la participation apparemment est supérieure, si j'ai bien compris, à 70%, ce qui aurait joué en première analyse en faveur du retrait.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un taux de participation quand même assez impressionnant. Je crois que c'est le taux le plus élevé depuis 1992. Globalement, là, aux dernières élections législatives, on avait un taux de participation de 66%. Donc, visiblement, l'ensemble de la population s'est mobilisée et se sont principalement mobilisés certainement aussi les classes plus défavorisées qui ont voté très massivement pour le retrait.
Agnès Alexandre Collier, donc je rappelle, oui. Vous êtes maître de conférence à l'université de Bourgogne.
Je suis professeur en fait, oui.
Et professeur, mais vous avez raison, autant pour moi. Et je voulais donc, on va parler un petit peu de la sociologie électorale régionale. Je voulais quand même qu'on voit pour le parti conservateur, c'est un échec criant. Oui. Et puis, mais pour le parti travailliste, il avait fait voter ou en tout cas appelé à voter pour le maintien, mais à demi-mot. Est-ce que c'est exact?
Oui, tout à fait. Alors, toute la campagne du Remain a été quand même une campagne très, très faible, on peut presque dire aphasique, en fait, avec deux leaders qui n'ont pas fait preuve d'un enthousiasme débridé pour le projet européen, David Cameron et Jeremy Corbyn, et surtout qui ont souffert d'un manque de crédibilité par rapport à leur engagement pour le IN. David Cameron est connu quand même pour avoir été vraiment un eurosceptique, avoir commencé sa carrière avec Norman Lamont, qui avait été le premier à demander un référendum sur l'appartenance. Jeremy Corbyn avait voté non en 75, a fait campagne contre le traité de Maastricht en 92. Donc c'est quand même curieux d'avoir une campagne pour le Remain portée par deux leaders qui sont historiquement des eurosceptiques. Donc je pense que ça a été quand même un point assez négatif pour la campagne du Remain et puis peut-être une mobilisation effectivement insuffisante sur le terrain, même si on a vu une accélération de la mobilisation au cours des dernières heures avec des militants qui sont allés arracher le vote, comme on dit, et qui peut-être ont permis d'augmenter un tout petit peu le résultat.
À propos des jeunes, alors c'est toujours très difficile de globaliser, surtout en matière de sociologie électorale, mais est-ce qu'il y a des choses à dire sur le vote supposé des jeunes ?
Alors, peut-être que c'est un peu tôt encore pour en tirer des conclusions, mais les jeunes, effectivement, sont principalement pour le IN, d'après les sondages, mais ils sont aussi les premiers à s'abstenir aux élections, à ne pas aller voter. Je pense que ça n'a pas joué en faveur du Remain, qui a largement, sans doute, été dominé par un vote plus âgé, plus favorable au Brexit.
Alors, en ce qui concerne donc la sociologie électorale régionale, là aussi, on a vu donc apparemment que pour le maintien, l'Écosse avait voté, l'agglomération de Londres, et pour le retrait, quelles sont les probables zones en faveur du retrait ?
Alors, ce qui est très, très étonnant pour le moment, c'est que, on voit, pas de surprise, les grandes villes comme Londres, donc, mais aussi Manchester, Liverpool, Bristol, Oxford et Cambridge, qui sont les deux grandes villes universitaires, voter pour le maintien. Mais alors, quand on regarde la carte du Royaume-Uni, on voit énormément de zones non prévues par les sondages qui ont voté pour le retrait. Je pense notamment à l'ouest de l'Angleterre et au nord-ouest, hein, puisque les sondages indiquaient plutôt en fait une reproduction du vote pour le UKIP aux dernières élections législatives, c'est-à-dire en fait un vote pour le retrait surtout dans l'est de l'Angleterre. Et là, en fait, toute la carte du Royaume-Uni est quand même largement dominée, en dehors de ces grandes villes dont j'ai parlé, par le Brexit, y compris au Pays de Galles, qui est quand même la grande surprise, puisque alors le Pays de Galles est une nation divisée, hein, avec un Est quand même plus proche de l'Angleterre culturellement. Et donc, mais là, on voit que le Pays de Galles aussi s'est massivement engagé pour le Brexit, donc il a fait certainement basculer aussi le résultat.
Juste d'un mot, le temps passe très vite, donc, oui. Et je rappelle Agnès Alexandre Collier que vous êtes professeur à l'université de Bourgogne. Juste d'un mot, les Anglais justement, les Britanniques, au contraire, les Britanniques se réveillent ailleurs aujourd'hui. Ailleurs de par rapport à l'Europe.
Oui, tout
chez
à
eux,
fait.
Justement, de plus en plus chez eux.
Oui, voilà. Je pense que je pense que l'information va être difficile à digérer. Il est clair que on observe vraiment une fracture au sein de la société. Alors, c'est quand même un pourcentage qui indique quand même que il y a une division, un clivage, et voilà, on attend de voir ce qui va se passer.
Voilà, merci beaucoup Agnès Alexandre Collier, donc professeur à l'université de Bourgogne. On aura le temps de revenir avec vous, avec d'autres experts, notamment évidemment la semaine prochaine, sur cette affaire-là. Guillaume Erner, en tout cas, pour écouter Agnès Alexandre Collier, franceculture.fr, et puis pour la télécharger.
Mais oui, parce qu'il reste beaucoup d'interrogations. Le devenir de l'Europe, vous l'avez évoqué Thierry, le devenir aussi du Royaume-Uni. Que vont devenir les différentes composantes du Royaume-Uni? Est-ce qu'on peut imaginer...
Normalement, ça accélère évidemment la volonté d'indépendance et la demande d'un référendum accepté ou non par Londres, d'ailleurs, des Écossais. Ce qui fait que M. Cameron, si le Brexit est confirmé, aura sur sa carte des visites retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et inspirateur de l'indépendance de l'Écosse, qui n'était pas un curriculum vitae un peu accablant.
Ce qui veut dire que cela accélérerait en quelque sorte les tendances centrifuges au sein donc,
très,
non
très
seulement
de l'Europe. Très mauvais pour le reste de l'Europe. Très mauvais pour le reste.
Pour quelle raison?
Les Catalans, les Basques, suivez mon regard. Et évidemment, c'est très populaire.
J'ai du mal à le suivre, Thierry, même si je regarde dans les yeux.
Et vous aurez des régionalismes indépendantistes qui vont s'affirmer. Rien de plus indispensable pour rendre plus cohérente l'Europe.
À ceci près que l'Écosse est un indépendantisme, ou en tout cas pourrait l'être, mais un indépendantisme qui demeure très européen ou très européophile.
Oui, mais ils sont obligés de poser leur candidature à Bruxelles, si c'est le cas, s'ils deviennent indépendants, comme s'ils étaient la Norvège ou comme s'ils étaient la Suisse demandant leur adhésion à l'Union européenne. Donc c'est pas tout cela ne va pas être une promenade de santé. Je voudrais juste, Guillaume, vous dire que le 4 avril, on avait parlé avec Jean-Claude Pieris des conséquences juridiques du retrait, et que la semaine dernière, le vendredi dernier, le 17 juin, on avait parlé des conséquences économiques avec Lionel Escaffre, et puis on va décliner tous ces effets considérables. L'un des pires effets, si c'est le Brexit, pour la cohérence, la cohésion de l'Union européenne, c'est qu'on va se retrouver face à face avec les Allemands face à face avec la France dans les grandes décisions pour les 10 ans à venir. Et ça, c'est tout à fait dérangeant.
Dérangeant. Et est-ce que cela peut augurer là aussi d'autres conséquences, Thierry Garcin?
Il y aura des conséquences. Alors, vous aurez des fédéralistes inoxydables qui vont nous dire qu'il faut encore plus de fédéralisme, politiser la zone euro, ainsi de suite. Mais je crois que là, il vaut mieux examiner maintenant, pour les mois et les années à venir, si c'est le Brexit, examiner, mettre à plat tous les dossiers. C'est le moment où ne pas prendre de décision échevelée.
On suivra tout cela en votre compagnie, Thierry Garcin. Merci.